Introduction au Cantique des Cantiques. Chapitre 1. Le mystère du divin époux. Dieu habiterait-il vraiment avec l'homme sur la terre? Voilà, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Telle était la pieuse exclamation du roi d'Israël, de celui qui écrivit ce livre dont, avec la grâce du Seigneur, nous nous proposons de nous occuper un moment. Telles étaient ses paroles quand la gloire de l'Éternel fut venue remplir la maison qu'il avait édifiée. Mais il en est vraiment ainsi. Le Fils de Dieu, le compagnon de Jéhovah, selon Zacharie 13, verset 7, celui qui était auprès de Dieu et qui était Dieu, a été manifesté en chair et a conversé avec nous ici-bas. Il a habité avec les hommes sur la terre. Il a dressé sa tente parmi nous. Il fut Jésus, et tel nous l'avons connu. Il fut un homme, un ami et un frère, un maître et un compagnon. Il réclamait la confiance. Il recherchait la sympathie et l'éprouvait aussi. Et actuellement, nous le connaissons encore comme homme. Aussi véritablement homme au milieu des splendeurs et des gloires du ciel, qu'il l'était autrefois parmi les ruines et les douleurs de la terre, aussi capable de comprendre maintenant par sympathie les souffrances de ses saints que lorsqu'il parcourait ici-bas les villes et les villages, prenant sur lui nos langueurs et portant nos maladies. Et que sera-t-il dans les âges de l'éternité? Toujours Jésus, Jésus uniquement. La domination sur toute chose lui appartiendra comme homme, puis la scène changera une seconde fois. De même qu'autrefois elle fut transportée des cités et des villages d'ici-bas au temple actuel dans le ciel, elle passera de ce temple au royaume de gloire. Mais c'est toujours l'homme Christ Jésus qui passe d'une scène sur l'autre. Précieux mystère, l'humanité qu'il a prise une fois, il ne la laissera plus jamais. Ainsi, dans cette humanité, un temple a été fondé pour que la gloire y habite, un vase a été formé pour contenir et répandre la bénédiction, une personne est venue pour manifester Dieu, et un instrument a été préparé pour l'exercice du pouvoir et du gouvernement. Le tout approprié au conseil de la divine sagesse et au dessein de la divine bonté. Combien ces choses sont merveilleuses, qu'elles sont consolantes et propres à encourager l'âme, si seulement nous avons assez de délicatesse de cœur pour le sentir. Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Dès le commencement et durant tout le cours de ses voies, Dieu a manifesté avec évidence son dessein d'amener très près de lui l'homme, sa créature. Il l'a exprimé de différentes manières, mais l'a poursuivi constamment. Au jour des patriarches, l'intimité était personnelle. Dieu marchait au milieu de la famille humaine, apparaissant en personne à ses élus, n'employant pas en général le ministère des prophètes ou des anges, mais agissant lui-même. Au temps d'Israël, il ne se montre pas autant sous une apparence humaine, mais plutôt sous une forme mystique. Toutefois, il était près de son peuple. L'Éternel dans le buisson en feu, la gloire dans la nuée, le chef de l'armée près de Jéricho, en sont le témoignage. Le Dieu d'Israël vu sur son trône de saphir, la gloire remplissant les parvis du temple ou reposant entre les chérubins, disent la même chose. Et les promesses, « Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et je marcherai au milieu de vous, et mes yeux et mon cœur seront toujours là », témoigne aussi de cette communion que Dieu désirait et qu'il s'était proposé d'avoir. Dans la suite des âges, le fait que le Fils de Dieu revêt l'humanité parle par lui-même, et les voix ici-bas de celui qui est Dieu manifesté en chair, s'accorde avec cette pensée et cette intention divine. Jésus vint, mangeant et buvant, et nous le voyons le même lorsqu'il est l'homme ressuscité. Il est vrai qu'il n'avait plus dans cet état un même logis et une même table avec ses disciples, et qu'il n'allait et ne venait pas parmi eux comme auparavant. Il ne devait plus le connaître selon la chair, comme dans les jours précédents. Mais il y avait cependant entre lui et les siens une complète intimité. Il est vrai aussi qu'en plus d'une chose, il montre l'autorité dont il est revêtu. Il en parle comme lui appartenant dans le ciel et sur la terre d'une manière suprême. Il ouvre l'intelligence de ses disciples. Il leur donne la paix, paix établie sur des fondements nouveaux et inébranlables, et comme chef de la nouvelle création, il leur communique l'Esprit Saint en Jean 20. Sacrificateur et seul sacrificateur du temple, il les bénit. Il accomplit toutes ces choses dans la conscience de sa puissance comme ressuscité d'entre les morts, mais en même temps, il conserve avec eux ses rapports d'intimité, intimité d'amour personnel aussi grande, aussi étroite et précieuse qu'auparavant, sinon plus. De même qu'autrefois, il boit et mange avec eux. Il les appelle frères, ce qu'il n'avait point fait dans les jours de sa chair. Il a avec eux un même Dieu et Père, ce qu'il n'avait pas dit avant sa résurrection. Bien que ce soit selon toute son autorité qu'il les envoie dans leur champ de travail, cependant, il coopère encore avec eux. Et quoique, dans cette période de 40 jours, il ne les visitât qu'occasionnellement, se faisant voir à eux comme il lui plaisait, selon Acte 1, verset 3, il leur donne à entendre, dans une scène simple et touchante, que bientôt cette distance où ils seraient de lui et leur séparation d'avec lui prendrait fin, et que ressuscités et glorifiés avec lui, ils le suivraient dans le lieu où il allait. Jean 21, verset 19 à 23. Tout cela n'est-il pas de la part de celui qui nous aime d'un amour éternel, de l'intimité, une intimité qu'il désire et dont il jouit, et dans la dispensation présente, il a été pourvu à ce qu'elle fût maintenue, bien que d'une manière différente. L'Esprit Saint est venu, l'Esprit de vérité est en nous. Nos corps sont ses temples vivants où il fait sa demeure, tandis que le Fils nous a mystiquement portés au ciel en lui et avec lui-même. Assurément, aucune des formes de communion que nous avons considérées n'est plus profonde, ni plus intime que celle-là. Si l'Éternel Dieu venait en personne auprès des patriarches et acceptait le chevreau et le gâteau que l'amour de ses hôtes lui offrait, si, à la vue de la congrégation d'Israël tout entière, la gloire venait remplir le temple, témoignant de la joie de l'Éternel d'entrer dans son habitation nouvellement fondée, si dans l'homme Christ Jésus, le Seigneur Dieu a voulu marcher avec nous et partager nos temps de repos, de labeur et de rafraîchissement, s'asseyant sur le bord d'un puits auprès d'une pécheresse élue, ou permettant à un disciple de se pencher sur son sein pendant le souper et de lui demander les secrets qui étaient renfermés. Au jour présent, il nous a pris, selon les pensées et les affections de son propre cœur, et nous a placés dans le ciel avec lui-même, et l'Esprit Saint est avec nous ici-bas, au milieu des pensées et des affections de nos cœurs. Cette intimité est-elle d'une nature moins étroite? Est-ce Dieu rentrant dans ses propres perfections et dans cette plénitude où il se suffit à lui-même, ou se retirant au milieu des gloires et des principautés des anges? Y aurait-il là de la réserve, comme s'expriment les hommes? Serait-ce qu'il se repente et ne veuille plus de sa première intimité avec l'homme, comme s'il eût été désappointé et blessé? Au premier jour, après que l'homme eut péché, l'Éternel Dieu fait entendre sa voix. « Adam, où es-tu ? » La fuite d'Adam loin de lui, a-t-elle rebuté l'Éternel ? Non. Ce témoin unique, ce témoin que nous avons en nos jours, l'Esprit qui habite en nous, nous mettant en relation avec le Seigneur, nous le dit clairement. Toutes ces voies actuelles ne sont qu'une plus riche continuation de ce dessein qui commençait à se montrer sous une forme naissante au jour de la Genèse. Que dirons-nous de cette intimité dans les âges à venir? Les hommes rachetés prennent la place la plus rapprochée du trône, celle des chérubins. Les animaux et les anciens sont là. Les anges, dans un cercle plus éloigné, entourent et eux et le trône, selon Apocalypse 5, verset 11. La femme de l'agneau, la sainte Jérusalem, porte la gloire dans son sein, selon Apocalypse 21, versets 22 et 23. Le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux, selon Apocalypse 21, verset 3. Mais s'il en est ainsi, comme il l'est assurément, une sainte question se pose. Comment avons-nous à recevoir ce qui se rapporte à cette intimité? Comment et dans quel esprit avons-nous à agir à l'égard de la réalité de ce dessein de grâce qu'a formé notre Dieu? Nous avons à l'admettre et à le croire avec la même simplicité qui nous est révélée. C'est là notre premier devoir. Sous aucun prétexte, nous ne devons repousser ni affaiblir la pensée de cette proximité divine. Jean aurait-il refusé de se pencher sur le sein de Jésus, ou bien se serait-il excusé de le faire? Non. Et nous ne devons pas, par une humilité mal entendue, mettre en question si nous avons bien interprété les divers passages des Écritures qui affirment cette vérité. Nous avons à jouir des privilèges qu'elle nous confère, mais en même temps, nous avons à reconnaître et à honorer ses droits, car cette proximité de Dieu est un élément de pureté aussi bien que de joie. Autrefois, admis dans la présence divine, il fallait ôter les souliers de ses pieds pour exprimer que l'on avait de sa sainteté le sentiment qui convenait. Mais c'était tout. Ni Moïse ni Josué n'étaient invités à se retirer, mais seulement à s'approcher avec vénération. Ils étaient bienvenus et encouragés, tout en apprenant la sainteté d'une telle intimité. Il en est ainsi dans le Cantique de Salomon, le Cantique des Cantiques. L'âme se glorifie de l'amour de son Seigneur. Elle ne se refuse pas à en écouter les plus tendres expressions, ni à dire que le désir manifeste du bien-aimé est envers elle, mais en même temps, elle sent et reconnaît sa propre indignité. On trouve là le souffle des pensées les plus pures et les plus intimes, une affection qui ressent promptement le fait d'avoir passé trop légèrement sur les merveilleuses condescendances de l'amour divin, et la diligence à nourrir dans l'âme la réponse qui leur est due. Et c'est ainsi que ce livre, dans sa brièveté, rend un témoignage très clair à la vérité de l'intimité dans laquelle Dieu veut être avec l'homme et à la manière dont nous devrions la recevoir. En le faisant, il nous introduit dans un grand et divin mystère qui lui aussi trouve dès les premiers temps et d'une manière constante des exemples dans le livre de Dieu, mystère qui arrêtera maintenant un moment nos pensées. Je veux dire celui de l'époux et de l'épouse.